Vous écoutez
RMC.
3-4
RMC. C'est parti. 9h midi.
Pardon. Me touche pas.
Tel que c'est parti, ils tiendront les délais.
Vivez la vie sans lendemain, mais avec le bonheur à chaque seconde de vivre ce grand carnaval.
Les grandes gueules du sport.
Eux aussi, ils font l'amour et la guerre.
À quoi ça sert d'être sur la terre?
Georges Quirino.
Bonjour à toutes et à tous, désolé pour ce chant matinal. Un dimanche matin, c'est un peu violent pour vous accueillir. Merci d'être avec nous autour de la table des grandes gueules du sport. Vous êtes nos grandes gueules du sport, vous le savez aussi. Venez rejoindre le débat au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. On aime bien que vous nous envoyez aussi vos messages pour nous dire ce que vous faites en nous écoutant le matin, en train de courir, en train de faire votre sortie à vélo. Vous nous écoutez aussi en podcast. Dimanche matin, il est 9h. Il est déjà là, fringant. C'est Christophe Cessieux en studio. Salut
oui,
Christophe.
Comment ça va les garçons? En pleine forme.
Ouais.
Je suis remis de ma défaite hier au jeu du sport, mais je pense que je vais prendre la deuxième couche avec Bennett qui est là. Donc. Je suis un peu inquiet.
C'est un jeu hier qu'on pourrait à minima qualifier de litigieux. Où il y a eu deux recours à la barre.
J'en ai marre de me faire voler tous les jours par Maxime Abelin, c'est une catastrophe.
Notre producteur. Alors ça par contre, ça c'est tout de suite c'est le conspirationniste, hein. Il pense que Christophe Cessieux est comme ça, hein. Voilà, je précise que Denis Charvet a passé sa question impossible hier, il me semble important de le dire. Bonjour Marc Madiot.
Bonjour.
Ça va Marc?
Ça va très bien.
Bon. Monsieur le président s'il vous plaît.
Monsieur le président.
Oui, bien sûr.
Monsieur le président, est-ce que cette semaine, vous êtes levé tôt pour regarder toutes les courses en Australie, notamment de l'équipe Groupama FDJ United.
Je ne suis pas levé tôt.
Ah, tu t'es pas levé tôt. Plus rien à péter du vélo.
Non, à 4h du mat, c'est un peu tôt quand même. Ça aurait été à 7h, 6h, je l'aurais fait. Mais,
Marc,
en plus, je connaissais le terrain de jeu, donc il n'y a pas.
Moi, je suis sûr qu'il s'est levé et qu'il a regardé l'Australie, mais le tennis.
Non, mais c'est juste que.
J'aurais pu.
C'est juste que Marc, maintenant, il consomme le sport comme un jeune. Il regarde les highlights le matin, les petits résumés, tout simplement. Comme ça, il voit que tous ses
regarde Twitter et j'ai le résultat en quelques secondes.
Exactement.
X, voilà. Tu regardes X.
X,
ah, oui, bon, écoutez. Excusez-nous.
Ça va. Il faut être précis.
Pour dictate de monsieur Musk, on fait ce qu'on veut.
Bonjour. Bonjour Julien Beneteau.
Bonjour Georges Quirino.
Tu dors, toi, en ce moment ou tu regardes
toutes les nuits ou pas?
Non, moi je dors.
Non, je me réveille tôt vers 6h30-7h, je regarde un petit peu le résumé de la nuit, les matchs qui sont en cours. Parce que j'ai un petit garçon qui est complètement fou et avant de partir au collège, je vais regarder un peu ce qui se passe dans le tennis, donc je regarde, il me fait regarder. Et voilà, mais là les matchs intéressants vont arriver.
Ouais. D'accord, c'est maintenant quoi. C'est maintenant les nuits blanches, c'est maintenant.
Ouais. Non, ouais, il y aura même pas besoin de nuits blanches parce que ça va être en night session là-bas, donc il va y avoir 8-9h du matin en France, ça sera parfait.
Derrière les Français à bloc là cette semaine.
T'as vu ça?
Ouais. Bonjour Jérôme Pinault.
Bonjour.
Il fait pas très beau sur la France en ce moment, ça va pas être la meilleure période pour vendre des vélos, hein.
Non, c'est pas la bonne période pour vendre des vélos. Ingrid nous fait du mal, hein.
Ouais, la tempête Ingrid là.
Il va venir le beau temps et tu vas rendre des vélos.
Oui, fin février, début mars, tout le monde s'en rappelle qu'il y a un peu de poids à perdre et que les routes sont belles par chez nous. Mais avant, on est tranquille.
La meilleure période, c'est fin février pour.
C'est début mars, juillet, pour
vendre des vélos. Tu as un magasin de cycle.
Mars-avril, les premiers
rayons. Et il n'y a pas un pic au mois de juillet avec le Tour de France?
D'achat de vélos?
Non. De pratique, peut-être du vélo, mais
comme le tennis pour Roland, je veux dire. Il y a plus de pratiquants en juillet, peut-être.
Mais c'est parce que c'est
les vacances. Vous achetez les vélos avant.
Ouais, c'est beau.
C'est bien, on comprend en tout cas un peu mieux comment marche le business grâce avec vous. Ce matin, c'est aussi ça les grandes gueules du sport, on essaie de comprendre un peu tout. Je sens que ce matin, il va falloir que je sois très concentré avec ces quatre-là autour de la table des grandes gueules du sport. À 10h sur le ring, la nervosité de Djokovic, on en a parlé hier, va-t-elle le plomber à l'Open d'Australie où il est à la recherche d'un 25e grand chelem à 38 ans. Vous votez sur le compte X des GG du sport. Captain Beneteau met le brassard ce matin. C'est une ode à Thomas Coville qui a battu le record du monde en équipage en 40 jours et 10 heures et quelques instants. Tu veux nous dire quoi? Que tu l'aimes tout simplement?
Exactement.
Voilà, c'est un hymne à l'amour. Il a remporté le trophée Jules Verne avec son équipage il y a quelques instants. On sera sur place évidemment sur le buzzer. C'est la Fashion Week cette semaine, vous le savez. La joueuse de tennis Naomi Osaka a fait parler d'elle en faisant un défilé de mode pour son arrivée sur les courts en Australie. La mode est de plus en plus présente dans le sport, hein. Les Bleus à Clairefontaine, la NBA. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Alors, on va en parler tout à l'heure. Le zapping, les GG remontent le temps et le vestiaire. Comment gérer la vie privée quand on est sportif de haut niveau. Alors que Thibaut Flamand, joueur du 15 de France, a renoncé au début du tournoi Destination pour rester auprès de sa femme, alors qu'il suit en ce moment un protocole PMA pour essayer d'avoir un enfant. Ça va être intéressant d'en parler avec vous, parce qu'il y a beaucoup de sacrifices forcément quand on est sportif de haut niveau. En fin d'émission, on participait au jeu du sport. C'est là le moment où il faut s'inscrire avec vos GG. Emporter 200 euros de bons cadeaux à valoir sur le site levent-à-la-française.com hein, pour retrouver des bracelets ajustables, personnalisables, confectionnés. C'est du Made in France, hein, les amis. Pour emporter votre bon de 200 euros, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez jeu, J-E-U, au 7-32-16, jeu au 7-32-16.
Rien que le générique, ça me crispe en fait. J'ai envie d'y être là, j'ai envie d'en découdre.
Ouais,
il va pas bien quand même. Ouais. Hein.
On a hésité à faire le sujet sur la nervosité sur lui plutôt que sur Djokovic. Le conducteur.
Je comprends tellement Djoko.
Tiens, en parlant de Djoko, il est en Australie, je vous rappelle, en Australie où se trouve aussi Eric Salio, notre envoyé spécial à Melbourne. Salut Eric.
Salut les amis.
Bon, on a des favoris sur le cours en ce moment.
Ah oui, oui.
On a vu cette nuit aussi, hein.
Non, en fait, je crois qu'ils ont attendu le coup d'envoi des grandes gueules du sport pour. On va avoir un multiplex puisqu'on a trois matchs masculins qui vont se dérouler en simultané. Notamment sur la Rod Laver Arena, Demi Nord va jouer contre Bublix, belle affiche. Zverev mène 2-0 contre Cerundolo, l'Argentin. Il revient en forme, hein, Zverev. Il va être dur à battre. Et puis sur la Margaret Court Arena. C'est parti entre Lerner Chin, l'Américain, face à Medvedev. Et l'Américain, au moment où je vous parle, a une balle pour faire 1-7-0. Il avait déjà battu, voilà, c'est fait 1-7-0 pour Lerner Chin. Il avait battu déjà le Russe l'an passé, un match qui s'était achevé à 2h55 du matin. Je crois que j'avais fait l'impasse, si je me souviens bien.
Oui, mais c'est
quel escroc.
Carlitos Alcaraz est passé. Hein.
Oui, Carlitos, victoire facile en 3-7 contre Tommy Paul. Et il jouera le vainqueur de Bublik, demi-heure. Et puis, on vient de l'apprendre, la programmation de demain est assez intéressante. Puisque, petit événement, Yannick Sinner ne jouera pas sur le central. Ils l'ont déplacé sur la Margaret Court Arena.
Ah bon ?
Et je crois que. Voilà, il va jouer quand même en fin d'après-midi.
Et Djoko, lui, sur Rod Laver en SSN.
Évidemment.
Voilà. C'est ça.
Ah, c'est intéressant. Petit arrangement entre amis.
Mais évidemment.
Attention les amis.
Il a cramé hier. Ouais. Il a joué plein cagnard parce que ce que je vous avais dit la dernière fois. Djoko, le jour où il fait 18 degrés à Melbourne, il a joué l'après-midi à 15h et c'est Sinner qui a pris la night session puisqu'ils sont dans la même partie de tableau. Le jour où il a fait 40 degrés, c'est Djoko qui a pris la night session tranquille.
Et c'est Sinner
qui a cramé. Donc là, Sinner, à mon avis, il est allé voir le directeur du tournoi. Il a dit, c'est terminé jusqu'à la fin.
Mais attention parce que les tests conspirationnistes, elles inondent les réseaux là-dessus depuis hier.
Eric, c'est pas conspirationniste.
Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Julien.
C'est factuel.
Allez, bah Eric, on te retrouve tout à l'heure. On va parler de Djoko, notamment.
C'est un vrai sujet que tu soulèves là.
Bah, bien sûr.
Bah, évidemment. Mais en Australie, c'est le grand chelem le moins fer.
En fait, il nous racontait il y a quelques années aussi la façon de faire de Roger Federer.
On va en reparler tout à l'heure, les amis. Ah, mais ici, on dit les choses, hein, Marc. Ouais, tu sais. Voilà. Mais d'abord.
Mais nous, on ferait ça en vélo, on serait mal.
T'imagines dans le tennis.
Oh là là.
Il y avait plein de trucs. Toi, tu vas parler. Jean, il nous balance.
D'abord, les amis, s'il vous plaît, le gros coup de l'OM hier soir, il faut en parler.
RMC. La une des grandes gueules du sport.
Coup d'envoi donné à l'instant face à Delorsois qui ne sont plus leaders mais qui veulent le redevenir.
L'attaque marseillaise, Peixão.
Peixão qui entre dans la surface, le ballon avec Guiri. Guiri en position de frappe, pourquoi pas le contre favorable, la reprise. Oh le but. Le but marseillais. Amine Guiri, 2 minutes et 50 secondes de jeu. 1-0 pour l'OM.
Attention, est à Guiri, il en frappe. Et le deuxième but de l'Olympique de Marseille, 12 minutes et Nwaneri.
Guir est l'entrée de la surface de réparation, retrait pour Mason Greenwood qui décale. Timothy Weah, le bon sort. Et le troisième pour Amine Guiri. 3-0 pour l'OM. Sangaré l'extérieur du pied, magnifique dans la surface de réparation et le but de Ryan Fofana. La réduction de l'écart.
Ouais, Benoît Bastien regarde son chronomètre, il va siffler la fin de la rencontre et Marseille a fait tomber l'ex-leader de Ligue 1. 3-1.
Le choc du haut de tableau a tourné à l'avantage de l'OM face à Lens. Succès 3-1 hier, doublé d'Amine Guiri et un but de la nouvelle recrue anglaise, Ethan Nwaneri, 18 ans. De Zerbi a fait des choix forts en faisant débuter aussi un autre renfort, le néerlandais Quinten Timber, et en laissant le meilleur buteur de Ligue 1, Mason Greenwood, sur le banc au coup d'envoi. Il est rentré après. Il a choisi aussi un dispositif tactique assez audacieux en 3-4-3. Marseille revient à 5 points de Lens et 8 du nouveau leader, le PSG. Donc après 19 journées du championnat, Marseille relève la tête après la défaite contre Liverpool cette semaine. Les GG, je vous pose la question parce que ça fait beaucoup parler aussi après le match, en conférence de presse notamment. Oui ou non, avec ce succès, De Zerbi retrouve-t-il tout son crédit, l'entraîneur marseillais ? Christophe Cessieux.
Il retrouve une partie de son crédit, mais ses déclarations de conférence de presse sont ridicules.
Marc Madiot.
On est à Marseille, donc ça va, ça vient. Donc oui, il a retrouvé un peu de crédit ponctuellement, mais quand on est entraîneur à Marseille, ça peut basculer à tout moment.
Julien Beneteau.
Moi, je suis déboussolé.
Jérôme Pinault.
À mes yeux, non, il ne retrouve pas tout son crédit.
Intéressant de voir.
S'il était français, qu'il aurait retrouvé.
S'il était bien français, peut-être.
Non, pas plus que ça.
On va en parler dans quelques instants. Vous attend au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. Tiens, bon, attendez, vous savez ce qu'on va faire, puisque tu en parles, Christophe. On va l'écouter tout de suite, Roberto De Zerbi. Je vous explique hier, après la rencontre, il est allé au micro du diffuseur où, assez rapidement, en fin d'interview, il dit en gros qu'il est peut-être plus critiqué que d'autres parce qu'il a un passeport italien, lui comme entraîneur. Florent Germain, notre correspondant à Marseille, on a parlé directement avec lui hier après la conférence de presse. Écoutez, l'échange est savoureux.
J'ai entendu l'interview que vous avez faite à la télé tout à l'heure et vous disiez, je ne sais pas si c'était de l'humour, mais que si vous aviez peut-être un passeport français, on ne serait pas aussi critique avec vous. Est-ce que vous pensez que...
Si j'avais le passeport français, ouais, ça serait un peu différent, c'est...
Est-ce que c'est vous trouvez qu'on est...
Si j'avais le passeport français, ce serait un peu différent et je serais moins critiqué. Moi, je suis arrivé ici avec beaucoup de respect. Je me suis lié à Marseille parce que c'est un endroit spécial, c'est une ville spéciale. Mais beaucoup d'entre vous peuvent critiquer, mais ils se sentent patrons. Et moi, je n'ai pas de patron, je n'ai pas de maître. Donc s'il y a des coachs qui vous envoient des messages pour que vous soyez bon, moi, j'ai le numéro de personne. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Beaucoup d'entre vous écrivent en bonne foi, mais beaucoup aussi sont de mauvaise foi. Quand il y a de la mauvaise foi, je reste à ma place, je ne dis rien, vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais je pense que le passeport, la nationalité, ça change beaucoup de choses, pas pour tous, mais pour beaucoup, et moi je suis italien, je suis fier de l'être, parce que je suis venu ici en respectant toujours tout le monde, en étant disponible, certains d'entre vous pensent être les patrons, venir à la commanderie en tant que patron, mais moi je n'en ai pas, le seul patron que j'ai c'est Franck Macourte, qui est le propriétaire, et même lui n'est pas mon patron, ni mon maître, est-ce que c'est clair ?
Frank McCart, che è il mio
capo.
Proprietario, e neanche lui non è padrone, ok?
Là, j'avais du coup ma deuxième question. Vous êtes à 5 points de Lens, à 7 points de Paris. Est-ce que cette victoire très importante contre...
Ancora lunga il campionato.
Oui,
dobbiamo giocare tutte le partite così perché si alternano.
Le championnat est encore long. On doit jouer tous les matchs de cette manière parce que si on continue à alterner des matchs comme aujourd'hui, des matchs comme contre Angers, ok. Mais si après on fait des matchs qui ne sont pas bons, alors oui, les critiques seront justes et méritées et on ne pourra pas être compétitif comme on l'a fait ce soir.
Abbiamo fatto questa sera.
Voilà, le regard est soutenu, hein, je précise en conférence de presse, dans cet échange où vous avez vu Roberto De Zerbi, il laisse même pas forcément Florent Germain, notre correspondant, terminer ses questions. Marc, ça t'a fait réagir.
Ah oui, ça me fait réagir.
Oh, là.
Très simplement. Non mais, il entend ce qu'il a dit ? Il entend ce qu'il a dit, le mec, là ? Non mais attends, il y a quand même un problème. Il se plaint des médias français, des Italiens et tout. Mais attends, il y a combien de temps qu'il est à Marseille? Combien de temps qu'il est arrivé à Marseille?
Ça fait deux ans.
Un an et demi, deux ans.
Ouais. Il n'a pas dit un mot en français.
Ça, je suis d'accord avec toi.
Non mais attends, il se plaint de l'attitude des médias ou des supporters par rapport à ses prestations. Et le premier truc qu'il fait, c'est qu'il parle en italien, il ne dit pas un mot en français. Ben, s'il n'est pas bien à Marseille, il retourne entraîner en Italie. S'il a pas, il ne va pas se plaindre de ce qui se passe à Marseille. Enfin, à un moment, je veux bien qu'il s'en plaint, mais la base, t'es entraîneur dans un pays, dans un club. Regardez, alors, je sais ce que tu
parles. Ah, Luis.
Ben, Luis, il fait l'effort d'apprendre le français, il parle français.
Ben, alors, il essaye, Roberto De Zerbi.
Je pense qu'il a plus de crédit parce qu'il est italien. Parce que les dingueries qu'il fait depuis un an et demi, il serait français?
Il serait déjà plus entraîneur.
Bien sûr.
Alors, non, je comprends pas.
Mais c'est parce qu'il vient de Brighton. C'est parce qu'il y a ce truc. Là, il a craqué là.
Il arrive en conférence de presse avec une attitude de mafieux.
Non,
je suis désolé.
Les mots quand même.
Je suis désolé. C'est l'impression que ça donne. Ni Dieu ni maître. Je suis le.
Les mots ont du sens. On ne peut pas utiliser ce mot-là quand même.
Je trouve qu'il a une attitude déplorable comme ça. Parce que il a gagné son match. Il arrive en roulant les mécaniques et en expliquant. Vous avez tous bavé sur moi. Moi, j'ai pas de maître. J'ai pas de Dieu. je suis non franchement
la problématique
s'il avait retrouvé du crédit avec la victoire, je pense qu'il l'a complètement perdu avec ses déclarations.
La mèche
est-ce qu'il se trompe de communication là après la victoire comme ça?
La mèche est allumée par le journaliste du diffuseur qui a pas toujours été tendre avec Marseille, qui comme il a son micro lui dit c'est formidable, vous venez de battre le record de buts en une demi-saison. Et là ça part.
Non mais attends, la question de confrère Timothée Maimon qu'on connaît très bien ici. On est quand même pas dans une question très provocatrice.
Si j'avais le passeport français, pas de souci. On peut quand même juste se dire que sa nervosité aujourd'hui se traduit aussi par un certain nombre d'événements qui tournent autour de l'équipe de Marseille. Quand Luis Enrique est très très nerveux en conférence de presse, on en fait un peu moins. Il est très nerveux en ce moment, on en fait un peu moins. La deuxième chose,
oui,
c'est
mais
que aujourd'hui,
dans son comportement, Luis Enrique, il est moins nerveux que deux heures.
Ce matin, le match de Lens hier est tactiquement catastrophique. Ce qu'a fait l'équipe de Lens hier et Pierre Sage dans son coaching n'a pas été bon. On peut quand même admettre que le traitement médiatique, c'est pas le même.
Oui, ça, je suis d'accord.
Est-ce que lui,
mais c'est
voit
pas,
ça
mais
ça n'a rien à voir avec la nationalité. Là, je suis d'accord. Après, si tu enlèves ça, il a aussi le droit de se dire, bah, quand ça va bien, soyons aussi peu tempérés que quand ça va pas. Moi, j'ai vu le match contre Nantes, c'était de la cata. Je trouve que sur Liverpool, on en a fait beaucoup. Ok, Liverpool a perdu hier, mais Liverpool est un grand, très grand d'Europe.
Plus fort
et de perdre contre Liverpool, c'est pas très grave. Soyons mesurés, je pense que De Zerbi et va trop loin dans quand il parle de la nationalité. Mais en revanche,
il se met tout seul en galère.
Non mais surtout parce que je suis italien,
sur ces
les
Français
se
mettent
des Italiens, donc c'est pour ça que je me fais critiquer.
Moi je te parle du football là, je trouve que
mais oui, mais là il est pas allé sur le football là, je suis désolé.
Tout ce qui a eu lieu avant était sur sa mise en place tactique, sur son mauvais jeu, sur ce qu'il vend et ce qu'il
est. La mise en place tactique, je veux revenir dessus et sur son côté où, comme tu dis, tout est exacerbé, mais De Zerbi, il est exacerbé. Sa réaction sur les deux premiers buts, il va limite sur le rond central. C'est n'importe quoi.
Bah attends, mais c'est sa façon de vivre le match.
Mais oui, mais pourquoi, à un moment donné, ça va, tu restes dans ton truc, tu peux être content. Il y en a pas un, tu vois, c'est ça, Guardiola, ils sautent, mais ils sont dans leur truc.
Mais c'est aussi sa force d'être un entraîneur passionné, Bennett. C'est-à-dire que là
je pense que ça va trop dans les deux sens.
Sur le premier but, il est heureux du but marqué de son équipe et il est seul. Il y a pas d'embrassade avec son staff.
Ouais, avec les joueurs, ouais. Mais après,
on parle de la communication de son comportement hier tactiquement. C'est la victoire de De Zerbi.
Mais moi, je suis pas d'accord.
Jeunes joueurs.
Je suis pas d'accord. On peut pas
contre Pierre Sage en face, dont on n'arrête pas de dire.
Ok, le résultat lui donne raison. Et dans le sport, il y a que le résultat, sauf que c'est un match. Mais je suis désolé, de manière pérenne, c'est pour ça que je suis déboussolé. On peut pas me faire croire que d'avoir titularisé Nwaneri et Timber, c'est l'idée du siècle, alors que les mecs
viennent d'arriver,
ne sont pas entraînés une seule fois. De mettre Pechao piston gauche, on va me dire que c'est ça la solution crédible jusqu'à la fin de la saison. Donc
il a fait le taf défensif. Hein,
hier, ça a marché.
Et les deux recrues ont
été très fortes. Ça a marché. Mais honnêtement, enfin. Il y a rien de rationnel là-dedans.
C'est un club qui ne l'est pas, c'est comme ça.
C'est des coups et
comment
ça
tu
monte,
expliques
ça descend.
Moi,
et on essaie de se maintenir.
Ce que j'ai vu hier, c'est surtout aussi un Balerdi, un Hulbert qui enfin, par rapport à Liverpool, par rapport au match contre Nantes qui a été la référence catastrophique, ils mettent de l'homme, ils mettent du leur, ils mettent leur trip. Ce qu'ils n'ont pas fait contre Liverpool. À Liverpool, ils défendaient à 3 mètres. Évidemment, tu te fais défoncer. Hier, ils ont joué avec leur trip, à Hulbert. On a vu des replis défensifs hier qu'on n'a pas vu contre Liverpool. Et forcément, moi, c'est ce que je dis, c'est que arrêtons de voir tout dans De Zerbi, le génie ou pas le génie. Il y a aussi des joueurs sur la pelouse.
Bien sûr.
Ces mecs-là, s'ils ont décidé que le mec, tout hystérique qu'il est sur le banc, il nous fait faire de la merde et demain, nous, on va être jugés. Alors, jouons notre football. mettons-y les ingrédients qu'on a nous déjà, et après on essaiera de se mettre en place cela. C'est ce qu'ils ont fait hier.
Il y a beaucoup de messages ce matin, vraiment sur le WhatsApp au 06 12 84 424. Al nous dit: grande victoire pour De Zerbi, une compo avec des choix très forts, un nouveau système qui a permis à l'OM de sortir de sa tactique habituelle d'aspiration de l'adversaire. Du grand art. Dylan qui me dit: bonjour, je suis marseillais, vous chargez De Zerbi dans toutes vos émissions, il faudrait peut-être parler aussi d'autres choses. On vous entend pas parler quand Monaco ne gagne pas. Bah, attendez, on le dit aussi, c'est sûr que Marseille est un club
qui fait un peu plus parler.
Voilà, c'est la recette aussi de ce genre de choses. Vous avez oublié que c'était Liverpool en face cette semaine. Ça a été dit aussi. On peut être critique d'un entraîneur sans dire qu'on est dans la charge sur la personne. C'est pas du tout le sujet. Nous, notre travail de journaliste, c'est d'analyser, et de toutes nos émissions de débat, d'analyser, d'essayer de comprendre les choix. Donc, on est là aussi justement pour ça et pour dire quand c'est bien ou quand c'est pas bien. On revient dans quelques instants. Est-ce qu'on est trop dur avec De Zerbi? Est-ce que ce succès fait qu'il retrouve tout son crédit? On en reparle avec vous, supporters marseillais. Venez au 32-16. Hein. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport, ce matin, après la victoire marseillaise hier face à Lens, 3-1, avec ce succès, De Zerbi retrouve-t-il tout son crédit? De Zerbi qui a été très offensif, on va dire, contre la presse française après la rencontre, en disant voilà que peut-être que c'est parce qu'il a un passeport italien qu'on est trop dur avec lui. Hein.
C'est marrant parce qu'il y a 15 jours, il disait qu'il ne lisait rien et qu'il n'entendait rien de la part de la presse. Ah, et ben, donc là, visiblement, s'il a des comptes à régler, c'est qu'il lit des choses et il aime pas trop les critiques.
Il lit et il écoute certainement RMC parce qu'on sait qu'avec dans une émission avec Antonio Cassano, un de ses anciens coïquipiers italiens en Italie,
ils ont bien chargé
Jérôme Rotten et Christophe Dugarry, bon, notamment cette semaine.
Jérôme Rotten, ça se comprend. Bon, Dugarry, moi, quand même.
Je précise que on fait pas un débat ce matin pour répondre parce qu'on se sent attaqué.
J'ai découvert ça en lisant la presse ce matin, sa déclaration. Autrement, c'est vrai qu'on était plutôt là en disant il a retrouvé son crédit, mais je pense qu'il a cassé un peu tout le bienfait de sa tactique et de la victoire de l'Olympique de Marseille par ses déclarations d'après match.
Non mais alors là, il y a beaucoup de messages sur WhatsApp. Dylan qui me dit: vous êtes sérieux? Quand ça gagne Roberto De Zerbi, c'est pas grâce à lui. Quand il y a des défaites, c'est à cause de lui. Alors ça, c'est le problème des entraîneurs aussi en général, hein, qui sont les premiers à être exposés. Alors ce qu'on peut se poser comme question, c'est que c'est aussi une tactique parfois de communication ou aussi de management auprès de son équipe, de dire, il a souvent utilisé Roberto De Zerbi dans le passé, le côté, c'est nous tous contre les autres.
Oui, seul contre tous.
Enfin, seul contre tous.
Ça, c'est son outil de management.
C'est un levier qui est parfois...
Complètement, mais c'est pas que l'OM, mais t'as raison.
C'est un levier qui est parfois utilisé par des managements. Je voudrais qu'on sorte même du cas de Zerbi. Est-ce que c'est quelque chose qui sert parfois dans un groupe ou pas?
Je pense que ça marche, moi.
Bah oui. Oui, pour resserrer les liens, je pense.
Quand tu passes des moments compliqués, si tu arrives sur des objectifs où tes coureurs ou tes joueurs ont un peu la tête dans le seau et que tu es dans un grand événement où moi j'ai pu me servir de ça, arriver sur le tour avec mes coureurs en disant on n'est pas les bienvenus, allons-y.
Lu dans des journaux et mis sur les tableaux.
La petite équipe, les petits coureurs. Non, mais il a toujours été au sommet, Marc.
Non. Son équipe a toujours été aimée, Marc.
Oui, on a toujours eu une...
Ça, c'est vrai.
On nous aime bien.
C'est grâce à son président, évidemment.
Non, mais Bennett, toi, ça a pu te servir parfois de carburant, de voir, je ne sais pas, ce qu'il se disait dans la presse, regarder ce qu'il dit.
Honnêtement, nous, dans le tennis, par rapport au tennis français, on est relativement épargné par la presse, par rapport au foot, au rugby, ou par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays.
Oh, c'est pas ce que disait Joe Tsonga quand même.
Bien sûr.
Joe a toujours été.
Et justement, c'était un grand débat qu'on avait, parce que moi, de temps en temps, avec les journalistes de l'équipe, c'était eux qui nous suivaient le plus tout au long de l'année.
Avec Eric Salio, quand même.
Quand il faisait pas l'impasse sur certains matchs.
Sur certains matchs.
En fonction de l'horaire.
S'il est trop dur.
Il y avait cette incompréhension de la part de ces journalistes-là, où on en discutait en off, en disant, mais on n'est pas dur, les gars. Vous regardez ce qui se passe en Angleterre, alors que les mecs, par exemple, avec Tim Henman, quand il perdait à chaque fois en demi-finale de Wimbledon, et les tabloïds anglais en remettaient une couche, il dit, mais il y avait un décalage.
Mais après, vous savez quand même ce qui se dit sur vous et sur vos performances, ou ce qui se dit dans le milieu. Marc, par exemple, je repense au patron de la Visma qui disait, les équipes françaises, elles boivent de la bière et tout
ça.
Ça t'avait fait réagir dans la préparation.
Ouais, ça m'avait fait réagir.
C'est l'environnement médiatique, en général.
Il allumait un contre-feu, en fait.
Donc en, sur le fond,
vous voulez qu'on soit attiré vers ce sujet-là.
Il voulait attirer l'attention des médias sur autre chose.
Mais toi, ça t'a pas servi comme élément de management pour dire, mais les gars, vous avez vu ce qu'ils disent de nous.
J'ai joué mon rôle là-dessus. J'en ai profité aussi. Voilà, ça fait partie du.
Mais t'en as profité quoi, comme manager justement pour piquer tes coureurs?
Pas pour piquer mes coureurs. Moi, j'étais en accord avec mes coureurs. C'était contre la Jumbo. Ouais.
Bon, ben non, mais c'est intéressant. Hein,
pour une bière
je peux le croiser, j'ai pas de problème.
Je serais curieux de savoir si Rudy Garcia, qui a été l'entraîneur de la Roma, a tenu ce genre de discours en disant vous êtes dur avec moi parce que j'ai un passeport français.
Au début, il a une cote d'avoir italien.
Non, mais il y a aussi quelque chose. Il y a aussi quelque chose, c'est que l'expérience précédente de De Zerbi, c'est en Angleterre. Et en Angleterre, avec Brighton, il a fait des miracles, il a jamais été chahuté. Parce que cette équipe était pas là où on l'attendait. Il l'a amené là. Il a été l'exemple de l'Europe dans le jeu. Et il sort de ça. Et là, il arrive dans un club où il y a des attentes. Il y a une presse qui, c'est soit Paris, soit Marseille. Il faut pas se le cacher. Et il est bousculé. Et il sait peut-être pas faire front à ça.
En fait, sa réaction, moi, je pense qu'il.
Hier, il parle absolument pas un seul instant de Mehdi Benatia. Et on n'entend plus Mehdi Benatia depuis 15 jours, 3 semaines.
Je pense. Alors, on l'a entendu non, je suis pas d'accord avec toi. On l'a entendu avant le match de Liverpool, où il est venu justement pour confirmer les recrues et tout ça.
Il y a eu un petit mot sur les recrues en disant, parce que Mehdi Benatia et Pablo Longoria sont très forts et j'ai deux joueurs exceptionnels, vous, deux très grands joueurs. Mais,
il y a eu du Fifi, à mon avis.
Mais je pense que, De Zerbi, je pense que lui-même, il est déboussolé par ses joueurs aussi. Et c'est pour ça qu'il est nerveux comme ça en conférence de presse. Hier, ça gagne 3-1 contre Lens, qui est l'une des plus belles équipes du championnat. Ça joue bien et franchement, l'OM est au-dessus. Il y a une ou deux occasions de Lens. Enfin, je veux dire, vu le match, il n'y a pas de contestation possible. 3 jours avant ou 4 jours avant, ils ne voient pas le jour contre Liverpool. Ils perdent contre Nantes au Vélodrome. Et le décalage de performance, alors que pour l'instant, il met le même système... Il met le même système. Parfois, c'est pas les mêmes joueurs au même poste, mais il garde un système.
Et là, peut-être que Marseille tu vas avoir sur le terrain. Tu ne sais pas. Tu peux pas savoir.
Moi, je trouve que parfois son système il est vraiment trop compliqué. Son système
ni dans les résultats. Et moi, c'est pour ça que.
Et à Brighton, il ne peut pas avec ce système-là aussi.
C'est ce que dit Laurent au 06 ou 84 84 sur WhatsApp. Il dit De Zerbi ne retrouve pas du tout son crédit parce que c'est la question que l'on se pose ce matin. Il faut voir sur la durée. Il y a quand même beaucoup de messages comme ça. Je rappelle que Marseille a manqué de constance en perdant contre Angers, contre Nantes, contre Toulouse. Quand Marseille joue bien, on le dit ici, on s'est enflammé avec Marseille en début de saison quand ça marchait bien.
Est-ce qu'ils peuvent être champions, etc. Bon, voilà, ils sont à 7 points quand même.
Non, mais c'est vrai. Après, la performance hier, elle est face à Lens. C'était le match qu'on attendait.
Il n'avait pas le choix contre Lens.
Non, mais hier, on se demandait est-ce que ce match est un tournant pour Marseille.
Mais bien sûr,
évidemment.
C'était un tournant pour Marseille. Dans le mauvais sens. Ils sont battus hier. C'était la fin. Alors là, il pouvait faire sa valise. Hein. C'était bon, il rentre en Italie. Hein. Il n'avait pas besoin de prendre de cours de français.
Ils étaient cuits. Ils jouaient la troisième place. Et il fallait arrêter de regarder Lens. Et c'était maintenant Lyon, Lille et compagnie.
Il se remet à flot, en fait. Il se remet à flot. Parce que s'il ne gagne pas hier, il est plus dans le, ça va être compliqué en Ligue des Champions. Et c'était plus que compliqué en championnat. Là, il reste encore à peu près dans l'allure du championnat en étant à 7 points. Donc il se redonne un peu d'air frais. S'il avait enchaîné par une défaite contre, c'était plus important de gagner contre Lens que de faire un résultat contre Liverpool.
Bien sûr, moi je vous rejoins pas sur un point, je pense que la série actuelle est pas si mal parce qu'il faut mettre à part le match face à Liverpool où c'est une équipe qui est bien supérieure et ce but à la 45 ou 44e, l'ouverture du score de Liverpool fait beaucoup de mal à Marseille parce qu'ils savent pas réagir derrière en ne changeant pas de système, là, pour le coup, mais en essayant de jouer leur jeu pour revenir au score et face à une équipe comme Liverpool, on laisse des espaces dans le dos et tu te fais trouer. Mais sinon, sur les matchs à confrontation avec un niveau égal ou inférieur à celui de l'OM, à part Nantes, il n'y a pas eu de faux pas.
Angers à domicile, Toulouse à domicile.
Ça gagne et Nantes ça récemment. Gagne hein. Il faut qu'on écoute les supporters marseillais ce matin quand même. Tiens, Stéphanie nous appelle au 32-16. Salut Stéphanie.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue dans les grandes gueules du sport. Est-ce que De Zerbi retrouve tout son crédit? Tu nous écoutes depuis tout à l'heure, qu'est-ce que t'en penses?
Qu'il retrouve tout son crédit, pas forcément, parce qu'on est tous... On est tous unanimes que parfois ses choix, on les comprend pas. Moi, j'étais au match mercredi, hein, on était en tribune. Voilà, bon, alors j'avoue, j'ai pas vu grand-chose de piégirage avec les tifos, etc. Mais, quand on regarde après les images, effectivement, il n'y a pas eu de jeu, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de, il n'y avait pas de, d'envie, il n'y avait pas de. Mais il y a des positions qu'on ne s'explique pas trop. Par contre, hier, voilà, c'est un match totalement différent, un autre visage. Est-ce que c'est grâce à De Zerbi? Moi, je pense un peu quand même. Parce que de mettre les nouveaux, ça a peut-être fait une petite piqûre de rappel quand même à ceux qui l'a écarté. Leur dire oui. qu'ils n'étaient pas forcément indispensables. Parce que, voilà, il y a certains joueurs quand même qui devraient quand même un peu plus se bouger le derrière en parlant poliment. Ouais, c'est frustrant, hein. C'est frustrant de passer du match contre Paris, Trophée des Champions, à ce match contre Liverpool, même si c'est Liverpool. Mais retrouver son crédit, pas complètement, mais il ne l'avait pas complètement perdu non plus.
Non, bien sûr.
Il ne l'avait pas complètement perdu non plus.
Mais c'est vrai que le match contre Liverpool, voilà, a impacté. Voilà, hein.
Je suis complètement d'accord avec Stéphanie. Sur le match de Liverpool, il y a des trucs, des phases de jeu de l'OM, au-delà du fait que psychologiquement, ce que disait Jérôme, quand ils prennent le but justement à la mi-temps, c'est dur. Mais il y a des phases de jeu. Tu vois Balerdi qui avance en marchant avec la balle, avec les pieds sur le ballon jusqu'au milieu de terrain, et ils ne savent pas quoi faire, ou ils disent non, ils ont pas joué, ils ont fait Pavard, ils savaient pas quoi faire. Un coup, il était milieu, avant-centre, arrière-droit. Je pense que c'est là aussi où c'est compliqué.
Stéphanie, tu trouves qu'il a raison De Zerbi, la presse française est trop dure avec lui?
Moi, je trouve qu'on n'a pas tout à fait le même traitement quand il s'agit de l'OM. On aime bien un peu, J'ai l'impression que ces vendeurs, moi je l'avais déjà dit cet été, hein, j'étais passée chez Rotten. Je trouve que ces vendeurs, parce que c'est l'OM, on sait qu'à l'OM, il n'en faut pas beaucoup pour embraser le truc. Puis en plus on n'a pas besoin de ça, on se met le feu tout seul souvent. Donc
je te confirme.
Le match contenant.
J'ai une Marseillaise à la maison, je te confirme.
Non mais Stéphanie, c'est important ce que tu nous dis. Stéphanie, c'est important ce que tu nous dis parce que je le lis beaucoup sur WhatsApp depuis ce matin, des supporters qui nous disent vous êtes plus indulgents avec Luis Enrique, avec Genesio, tout ça.
Mais Luis Enrique quand il n'arrivait pas à faire
un match contre Paris Saint-Germain
l'année dernière,
il s'est fait défoncer.
Luis Enrique. Et attendant. Mais bien sûr que oui,
défoncé. Jusqu'au mois de janvier, il se faisait éclater, Enrique.
Et d'un seul coup, il a changé deux comportements et son équipe s'est mise à gagner.
Daniel Riolo. Luis Enrique, il y est allé au début.
Jérôme Rotten.
Jérôme aussi.
Duga aussi. Non, mais après, tous les grands spécialistes.
C'est aussi ce qui se passe. C'est aussi ce qui se passe dans les grands clubs. Dans les grands clubs, vous êtes plus exposés.
Non, mais ce qu'on vient de dire là, c'est ce qu'on répète.
Christophe Galtier, quand il était au PSG, il était exposé, il était très critiqué aussi.
Qu'on répète à l'oreille de De Zerbi toute la journée, c'est quoi du côté de Marseille? C'est la presse est parisienne, ils sont pro-parisiens. Bien on sûr. Lui répète ça toute la journée, donc évidemment que ça lui monte à la tête. Évidemment,
alors, j'ai deux Marseillais à côté de moi.
Évidemment. Il n'y a pas un Parisien autour de
lui. Mais Stéphanie, on regarde le match mercredi du Paris Saint-Germain face à Newcastle, si ça se passe pas bien. Enrique va prendre cher aussi, c'est comme ça.
Et je remercie Stéphanie d'avoir été avec nous au 32-16.
Ouais, c'est mieux que je suis en ici.
On est plus doux, bien sûr. Et je vous remercie. Ouais. Et d'ailleurs, sur WhatsApp, hein, voilà, ça prend feu depuis tout à l'heure. Oula, avec beaucoup de réactions voilà, sur Roberto De Zerbi et sur l'Olympique de Marseille. Marseille qui a gagné, faut le dire.
Oui,
Marseille a gagné hier.
Face au leader.
Et la victoire est impactante avant d'affronter Bruges mercredi en Ligue des Champions. Dans un instant, les amis. On va parler des autres sports, de tennis, notamment de rugby, dans le zapping. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport. Tiens, événement sur RMC aujourd'hui, dernier jour pour remporter vos places pour le match de Ligue des Champions PSG Newcastle. 28 janvier à 21h au parc. On vous propose de vivre l'expérience RMC, c'est-à-dire que vous assistez aux émissions avant, ensuite vous prenez la direction du stade, vous revenez dans les coulisses de l'after. Dès que vous entendez ceci, vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16. Vos places pour PSG Newcastle se gagnent uniquement sur RMC. Donc restez très attentifs. Dans un instant, on va aller à l'Open d'Australie parler tennis et de Novak Djokovic. Votez sur le compte X des GG déjà, sur la nervosité de Djoko. Mais d'abord, on zappe.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Tiens, on va parler rugby d'abord, les amis. Je m'en fous pas. En top 14. Des affiches ont enfin tenu leur rang hier, Christophe.
Ouais, je m'en fous pas.
Marc.
On s'en fout pas, mais c'est pas.
C'est pas ton truc.
C'est
quoi.
Pas forcément.
C'est pas plus que ça, quoi. Ouais.
Jérôme.
Non, je m'en fous pas.
Bennett.
Ouais, je m'en fous pas.
Allez, succès du Stade Français d'abord. C'est peut-être le résultat le plus impressionnant hier, 33-28 sur la pelouse de l'UBB. Et puis victoire
59-22 de Toulouse contre Pau dans le duel entre le premier et le second. 9 essais toulousains. Ils ont pas déconné, hein, contre des Palois qui avaient en plus aligné le meilleur 15. Sébastien Picoroni, le manager de la section paloise après la rencontre.
À l'habitude de regarder le top 14. Tu veux pas arriver aujourd'hui. Bon, t'as remarqué que Toulouse, ça fait plusieurs années qu'ils roulent sur tout le monde quand ils le décident. Pour moi, il y a rien qui a changé. Non? Combien il y a eu en finale il y a 2 ans? Je sais pas. Non, honnêtement, pour moi, là-dessus, il n'y a rien qui a changé. Il y a Toulouse et les autres. Excusez-moi de vous surprendre, mais pour moi, là, il n'y a rien qui a changé.
C'est quoi? C'est la fin du petit suspense qu'il pouvait y avoir? Il y a quand même toujours Toulouse et les autres, Christophe?
Il y a eu ce début de petite crise avec 2 défaites en Champions Cup, mais Toulouse, c'est vrai, roule sur ses adversaires, notamment à la maison depuis le début de la saison. Hein. La sanction, elle est de 50 à 60 points à chaque match. C'est vrai qu'on pouvait espérer peut-être un peu mieux, un peu plus de résistance de la part de Pau, qui a tenté le coup en première mi-temps, mais qui s'est fait submerger par cette équipe toulousaine qui est formidable à voir jouer et qui reste évidemment la meilleure équipe en France, sinon en Europe. Et bon courage pour les Bordelais qui vont prendre les Toulousains en quart de finale, notamment de la Champions Cup
chez eux.
Ça va être quelque chose. Mais tu le disais, il y a eu aussi la performance du Stade français. Là, personne vraiment ne l'attendait. Je pense qu'ils ont été très malins. D'habitude, c'est vrai que depuis le début de la saison, on se dit que on va à l'extérieur, on se déplace sans aucune ambition de victoire. Là, ils ont été malins parce qu'ils ont vu que.
Alors, on a des équipes qui sont déplacées avec les équipes.
Exactement. Hein, franchement. Avec Bordeaux qui avait peut-être la tête encore dans les étoiles après ses prestations en Champions Cup. Et ils ont su taper au bon moment, au bon endroit. Bon, chapeau.
On espère que La Rochelle, aujourd'hui, le Stade Rochelais ira à Clermont avec les mêmes ambitions et avec l'envie de bousculer. 22 matchs consécutifs sans victoire pour La Rochelle face à Clermont.
21h05 à suivre sur Arabie, comme Toulon-Montpellier qui a été décalé aujourd'hui à 15h30.
Et Bayonne qui perd chez eux pour la première fois.
21 victoires à domicile qui durait depuis plus d'un an et demi. Et ben là aussi, les castrés ont su mettre à mal ça. C'était une superbe journée de top 14, franchement.
Ouais, bon, écoutez, magnifique. Et on va continuer à la suivre sur RMC, vous le savez, comme toutes les rencontres top 14. Mais oui, Toulon-Montpellier, reporté à aujourd'hui, donc 15h30. On zappe, je m'en fous pas. Kylian Mbappé a marqué une panenka devant Brahim Diaz. Marc.
Ah, on s'en fout pas du tout. J'ai 2 mots à lui dire, Mbappé.
Il est chaud ce matin, Marco. Bennett.
Pour moi, c'est la cagolerie, je m'en fous totalement.
Ah ouais, excuse-nous.
La cagolerie.
Ouais. Ouais, c'est tout le foot que je déteste.
Jérôme?
Non, moi, je m'en fous pas et je vais écouter Marc.
Christophe?
Je suis entièrement du même avis que Julien, je vais vous écouter.
Alors, je vais le dire. Le Marocain, souvenez-vous, a tenté une panenka et raté un penalty la semaine dernière qui aura offert la CAN à son pays. On en a beaucoup parlé.
Il l'a fait exprès ou pas?
De rater son penalty? Non, on va tous se mettre d'accord. Hier, il était là, donc Brahim Diaz, avec le Real, lors de la victoire 2-0 dans le match très important à Villarreal, où Kylian Mbappé a inscrit un doublé, dont un penalty d'une panenka parfaite, qu'il a ensuite, selon la télévision espagnole Movistar, qui a fait de la lecture labiale, il l'a dédié à Brahim Diaz. On voit une séquence où, en gros, il félicite Diaz derrière. Enfin, ils se prennent dans les bras. Il dit Porti, c'était pour toi. C'est comme ça que la télévision espagnole l'a vu.
Tu fais bien le Kylian Mbappé.
Non, mais franchement, en espagnol. Les larmes de crocodile de Mbappé dans la semaine. On va s'occuper de notre copain Brahim Diaz. Il faut l'entourer. On est des hommes. Et c'est pas grave ce qui s'est passé. Et lui faire une panenka hier, mais c'est pas charitable ce qu'il a fait, Kylian. C'est pas beau ce que t'as fait, Kylian, hier. C'est pas gentil ce que t'as fait, Kylian, hier.
Ah oui. Toi, t'aurais pas aimé?
Ah non, j'aurais pas aimé. Mais alors, pas du tout.
Tu lui aurais mis ton vélo sur la gueule?
Non, mais franchement, il vient faire les larmes de crocodile 3 jours avant, et là, il fait ça hier.
Non, mais c'est intéressant.
Kylian, tu vaux mieux que ça.
Je sais pas comment l'a reçu Brahim Diaz, hein, peut-être que.
Je pense pas qu'il l'ait bien pris. Hein.
Ben moi, Jérôme, je me suis demandé en voyant cette image comment j'aurais pu le prendre à la place de Brahim Diaz, sachant les grandes amitiés que lie Kylian Mbappé à Achraf Hakimi, qui était pour moi le mec qui devait tirer ce pénalty. A priori, c'est ce qu'a reproché Regragui à Diaz.
je le mettrais plus dans le foutage de gueule que dans le soutien, moi. Parce que, en fait, et là, pour le coup, ça me gêne aussi.
Il y a deux lectures. C'est soit c'est, tu mets la Panenka, tu dis, bah, tu vois, regarde, on peut faire des Panenka.
Tu vois comment, c'est ça qui
vaut le côté. Tu vois, c'est comme ça.
Je vois ça plutôt de ce côté, moi. Sinon, tu mets plat du pied, tu te fous pas de la tronche du goal, tu mets un but et tu reviens au centre du terrain. C'est aussi bien. Quand t'es un grand champion, tu peux faire ça aussi. Ça passe très, très bien.
Bon, ça va faire beaucoup parler, évidemment. Allez, on zappe. Je m'en fous pas. J-12 avant les JO de Milan Cortina. Nos athlètes français sont en grande forme. Christophe.
Je m'en fous pas du tout.
Ah oui, sinon tu resterais pas. Tu resterais là. Marc.
Bah on s'en fout pas, mais c'est plutôt une bonne nouvelle.
Jérôme.
Ah bah on s'en fout pas, le biathlon encore moins.
Et Bennett, le meilleur skieur de la tablée.
Bah non, je m'en fous pas, moi. Merci de cet hommage.
Ah, merci. Nos biathlètes ont fini deuxième des relais simples et mixtes hier à Novemesto, avant la Mastart masculine à 14h15 aujourd'hui et la féminine à 16h40. On va suivre ça sur AMC, évidemment. Périne Laffont aussi, pour son retour de blessure, a gagné en Coupe d'Europe en ski de boss à Megève hier. Et la grosse performance aussi, c'est la troisième place de Maxence Musaton. On l'a vécu en direct sur la mythique descente de Kitzbühel en Autriche. Le skieur de la Plaine, 35 ans, comptait qu'un podium en Coupe du Monde avant cette course. Et évidemment, hier, l'émotion était importante.
Ouais, c'est bien, c'est voilà, c'est maintenant c'est acté, et comme je disais tout à l'heure, voilà, j'ai vécu beaucoup de podiums, mais très peu, voire quasiment jamais, où c'était moi qui étais porté haut, donc ça fait pointe d'émotion supplémentaire. C'est des beaux moments de vie à vivre. Là, le faire à Kitzbühel dans la descente, qui est ma discipline forte et ma seule discipline cette année, voilà, ça, d'autant plus à Kitz, ça a encore plus d'importance, et non, je suis très fier.
Voilà, maintenant c'est acté, il dit pour aller au JO, hein. Certainement sa performance va lui permettre d'aller peut-être à Milan Cortina. Christophe, non mais c'est vrai,
c'est chaud, hein.
Non mais il y a
sept places. C'est un vrai casse-tête pour les entraîneurs et les sélectionneurs de l'équipe de France.
Non mais il y a quelques semaines, on avait fait un débat avec Sébastien Amé, notre consultant ski, qui disait, moi je vois 5 médailles françaises en ski alpin par exemple pour nos bleus. On est en forme quand même là.
Ah oui là, on est en forme. Il y a pas beaucoup de victoires, il y a eu des victoires en slalom avec Paco Rassa et Clément Noël, mais on arrive à atteindre les podiums. Donc c'est plutôt de bon augure. Après, l'équipe de France Olympique, c'est pas que le ski alpin, et je pense que l'essentiel des médailles ne sera pas fait par le ski alpin, mais
il y a le biathlon notamment.
Là, le biathlon, les filles et les garçons sont sur coussin d'air en ce moment. Il y a eu deux doublés chez les filles et les garçons ce week-end.
Battu par l'Italie hier.
Battu par l'Italie en relais, mais il y avait pas tous les bons relayeurs français.
Les Italiens arrivent fort partout. Hein.
Alors les Italiens arrivent fort. Ils ont bien préparé les jeux.
La bonne nouvelle pour les garçons, notamment, c'est Giacomel qui commence à trembler au tir pour le biathlon.
Ça, c'est en biathlon, oui.
Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle si on veut aller chercher. Parce que le biathlon va aller chercher des médailles d'or.
Hein. Oui, c'est pas au patinage artistique que tu trembles au tir, Georges.
Ouais, merci pour la précision, c'est important.
Je sais pas, tu sais, les règlements évoluent. Regarde, maintenant, on peut faire des saltos.
Et le trip Axel, ping.
Mais tu la chopes au deuxième. Tu la chopes au deuxième. Deuxième rotation.
Peut-être que les juges vont pas l'apprécier, celle-là. Aujourd'hui, slalom, 10h30. On va suivre évidemment.
Ils sont ratés la semaine dernière, nos slalomers, donc on espère.
Et 13h30, ça va commencer très vite parce que Paco Rassa a le dossard de.
On a eu aussi un joli crosseur qui a gagné hier et qui a
bien. Souvent des médailles au ski cross.
Ouais, on se rappelle du triplé incroyable à Sochi. Ouais,
bien sûr. Allez, on zappe rapidement. Je m'en fous pas à l'Euro de handball. N'enterrez pas les Bleus. Leur réaction était impressionnante hier. Bennett.
Je passe.
Christophe.
Ouais, non, c'est très bien. Non, ça, je m'en fous pas.
Marc.
Bon, c'est bien. Ouais. On va attendre un peu la suite.
Voilà. Ça vous passionne pas le hand, hein, j'ai l'impression. Hein.
Moi, je m'en fous.
Vous avez rien.
Attends un peu. Là,
je m'en fous pas, mais je peux pas m'emballer sur une victoire face à le Portugal. Alors.
Ah, parce que c'est le Portugal.
Alors défaite contre
le Danemark.
Je rappelle le contexte. Défaite contre le Danemark. Jeudi, tour principal. Les Bleus, ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Ils ont battu le Portugal hier 46-38. Ils ont mis 28 buts en première période, c'était jamais arrivé à l'Euro. Prochaine étape demain à 18h face à l'Espagne. Non mais c'est vrai que certains joueurs d'équipe de France disaient on a peut-être parfois tendance à être un peu à réaction.
C'est complètement réaction. Français ça, c'est pas uniquement dû au handball, mais il y a eu souvent les Français mis au pied du mur et qui réussissent des exploits incroyables et de temps en temps ils ont la balle de match et ils la mettent à côté. On se souvient de ce match en quart de finale des Jeux Olympiques face à l'Allemagne.
À la passe de Dika même.
Ah bah là ça avait été terrible, mais parfois ils sont capables de soulever des montagne. Et là, il leur reste deux matchs à gagner pour espérer être en demi-finale, notamment la victoire indispensable face à l'Allemagne.
Face à l'Espagne aussi.
Et d'abord, il y a l'Espagne, mais l'Espagne est déjà éliminée. Ensuite, il faudra battre l'Allemagne qui est au top de sa forme. Et là...
Ah, Ah oui, mais là, les amis, voilà. Justement.
Et ça tombe toujours quand c'est Christophe qui parle.
Non, c'est pas vrai.
Vous voulez m'énerver. On veut me couper. En fait, on veut me censurer. J'ai bien compris.
C'est le moment.
C'était un peu long, là.
C'est le moment pour vivre l'expérience RMC et gagner vos places pour PSG Newcastle le 28 janvier à 21h au Parc des Princes. Vous avez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16. Dans un instant, les grandes gueules du sport reviennent. Tiens, Sylvie, sur WhatsApp au 06-12-424-424 me dit bonjour les GG, moi le geste d'Mbappé, je trouve ça trop fort. Eh oui, il y en a certains qui le saluent, ce qu'a fait Kylian. Allez, on revient dans un instant, on va parler tennis et de l'Open d'Australie avec Novak Djokovic. Il est pas un peu trop nerveux, le Novak, en ce moment? Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.